Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fucked my wife.
What?
You fucked my wife.
Sarah Connor, non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
T'as qu'à vendre des consommations normales de temps en temps.
Hey, toi, t'as qu'à consommer! C'est pas un nightclub ici.
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission Ciné Primitif. Toujours en compagnie de Bobo et Dahu.
Salut.
La forme.
Bonsoir.
Et on a un invité.
Ouais, on a un invité.
Grand
mon
Bobo.
Jumeau de voix et mon grand frère.
Ouais, c'est ça. Non, on est entre frangins ici. C'est cool.
C'est ça, c'est ça.
Bonsoir les copains.
Ça va la forme, grand Bobo?
Ah, je suis très très heureux en plus d'être avec vous. Franchement, ça me fait énormément plaisir.
Ah, c'est cool. En plus, tu es là pour le thème animation.
Oui.
On a encore une chouette sélection, comme d'habitude. C'est varié.
Ah oui.
Voilà, donc on va vous présenter 6 films, passer leur bande son et puis en discuter un petit peu. Je vous propose de commencer tout de suite avec le premier film.
Ouais, Death Race 2000.
Non, pas du tout.
Oh, j'ai pas regardé les bons films.
Vous avez pas regardé les bons films. Je vous avais envoyé mon film en plus.
Ninja Turtles Teenagers,
sorti en 2023. C'est réalisé par Jeff Rowe qui a fait les Mitchells contre les machines et Kyler Spears qui n'a pas fait grand chose. Le scénario c'est Evan Goldberg et Seth Rogen entre autres. Donc qui ont fait le scénario aussi de plein de films que je trouve cool, des comédies, bon ça plaît pas forcément à tout le monde, mais Super Grave, This is the End, L'Interview qui tue, Delire Express, The Green Hornet, Sausage Party, etc. Enfin voilà, un humour particulier mais que moi j'aime bien.
Moi aussi.
Donc,
Oui, mais après c'est vraiment...
C'est des bonnes comédies quoi.
Ouais, mais...
Tu passes un bon moment.
Ouais, mais Ninja Turtle...
Ouais,
là, il est un peu plus familial
là,
celui-là.
Là, il y a quelque chose quoi.
Ouais. Donc le synopsis, bah, tout le monde connaît les Tortues Ninja, mais bon là c'est un peu différent, on va dire, c'est adapté, une libre adaptation. Donc c'est après des années passées loin du monde des humains et cachés dans les égouts par leur père adoptif, Maître Splinter, qui est un rat mutant, les frères Tortues, donc Leonardo, Raffaello, Donatello et Michelangelo, entreprennent de gagner le cœur des New-Yorkais et d'être acceptés comme des adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Ils vont faire la rencontre d'April O'Neil, qui est une journaliste dans son école et qui va les aider à s'attaquer à un mystérieux syndicat du crime. Ils vont se retrouver dépassés par les événements lorsqu'une armée de mutants se déploie contre eux.
Ouais, ce film est énorme.
J'ai été le voir au cinéma.
On était ensemble, ouais, d'ailleurs. Et ouais, non, une bonne petite claque d'animation, franchement,
ouais,
c'est cool.
Le direct artistique est génial. Qu'est-ce que tu rigoles, il y a des scènes pour petits et grands, en tout cas, tu t'éclates.
En tout cas, la première fois que tu le vois, ouais, tu passes un bon moment. La deuxième, bon, bah forcément.
Mais en tant que fan de Tortue Ninja, depuis tout jeune, ils ont refait le truc de manière exceptionnelle.
Ouais, de manière
exceptionnelle, avec la bande-son, les graphismes, tout. C'est génial.
Les graphismes, d'ailleurs, ça a été fait par un studio français, Mirkos Animation. Et j'avoue que le style est quand même cool, quoi. C'est un peu griffonné, machin.
Oui, très griffonné.
Ouais, et je trouve ça plutôt sympa au départ, c'est un peu déroutant. Je trouve ça fait un peu comme le Spider-Man.
C'est lui qui a mis le pied à l'étrier. Ouais. Il y a eu plein de films maintenant qui sont sortis avec un peu ce style-là.
Mais franchement, ouais, cool.
Mais celui-là est très drôle. Il y a un bon rythme, on s'emmerde pas.
Ouais, puis il y a beaucoup de personnages, si tu veux,
t'as tous les mutants. T'as tous les autres mutants, t'as pas Slazer.
Le
gecko.
C'est à moitié défoncé.
C'est vraiment top, c'est vraiment top ce qu'ils ont fait.
Un bon petit film,
magique, celui-là, il est magique.
Il y a des bonnes punchlines, des bonnes scènes assez rigolotes. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Après, une petite anecdote, Splinter est doublé en VO par Jackie Chan, dont les deux scénaristes sont grands fans.
Ouais, la voix française aussi, pas dégueulasse. Hein.
Bah, y a plein de gens connus, y a Gérard Darmon du coup qui fait
Splinter.
Oui, c'est vrai
qu'il y a Gérard Darmon qui fait Splinter.
Après j'ai vu, il y a Marc-Antoine Lebray, et puis Studio Bagel et un Tamal, Monsieur Poulpe, Jérôme Niel, Alison Wheeler, etc. Franchement, ça passe bien.
Ouais, après Jackie Chan, ça reste quand même un meilleur acteur. Cascadeur de tous les temps, quoi.
Ouais, donc le rôle en plus il correspond bien.
Voilà. C'est un beau clin d'œil qu'ils ont fait à Jackie Chan.
Ouais. Ouais. Toi, grand bobo, qu'est-ce que t'en as pensé?
J'aime beaucoup, comme tu dis, le style griffé là.
Ouais.
Un peu sur le début des comics.
Ouais, tu lis un comics, t'as l'impression d'être dans le comics que tu lis. Est-ce que tu t'imagines en lisant un comics?
Et ça rappelle les Mitchell contre les machines. Celui-là, pareil, c'est le même style. Très très griffonné, moi j'adore.
Voilà. J'ai pas vu moi le Mitchell contre les machines, c'est bien?
C'est une famille classique des États-Unis et il se passe passe tout un tas de choses avec contre les robots. Enfin voilà, c'est super sympa, mais c'est exactement le même style, super sympa, très dynamique.
Ouais. Ok. Bah peut-être pour une prochaine émission. En tout cas, moi je vous propose de passer à la musique. Donc la BO est signée à Trent Reznor et Atticus Ross. Donc ça, on la passera en fond comme d'habitude. Mais la musique que j'ai choisie et qui revient souvent dans le film.
Ça a dû être dur pour toi, parce que franchement, la
BO. Il y a de la playlist. Hein.
Ouais, mais magnifique. Tu vois. Le son sur cet animé, il est magique.
C'est vrai.
Ouais.
J'ai passé. Enfin, je veux mettre celle qui passe le plus souvent et on l'entend jamais en version. Enfin, la vraie version. C'est toujours chanté par des personnages, etc. Mais c'est une musique que tout le monde connaît, puisque c'est Four Non Blondies. What's Up? Et de retour dans Ciné Primitif, on vient de s'écouter Four Non Blondies, What's Up, musique dans le film Tortue Ninja, qu'on vient de présenter. Et on passe au deuxième film, présenté par Grand Bobo.
Alors c'est parti, donc moi je vous ai choisi Toy Story. Toy Story, alors le réalisateur c'est John Lasseter. C'est un film qui a été récompensé à multiples reprises. C'est un film qui fait du bien, voilà. Ouais. C'est un... C'est un C'est un dessin animé, en gros, qui fait vraiment beaucoup de... qui donne la pêche. Moi, ça me rappelle, voilà, mon enfance, les jouets, tout ce qu'on a pu créer comme histoire. Alors après, voilà, je pense qu'on est aussi...
C'est indémodable, je pense. Hein. N'importe quel enfant a eu des jouets,
c'est vrai, c'est histoires. Vrai. Mais voilà, on se rappelle aussi beaucoup de choses qu'on a pu faire ou qu'on a pu inventer quand on était jeune. Donc voilà. Ça, l'histoire, c'est donc ça met en scène un groupe de jouets. On a Woody, une poupée qui représente un cow-boy, et Buzz l'éclair, une figurine d'astronaute. Ça, ce sont les deux personnages principaux. Dans la chambre d'Andy, donc, ces jouets se mettent à vivre leur propre vie dès que les humains ne sont plus présents. Il y a deux événements qui sont vraiment majeurs dans ce film. Le premier, c'est le jour de l'anniversaire d'Andy avec l'arrivée d'un nouveau jouet, Buzz l'éclair, qui va rebattre les cartes au sein du groupe de jouets. Et le déménagement de la famille, où finalement l'ensemble des jouets est un peu pris de panique et qui craint, voilà, chacun craint d'être oublié, jeté, remplacé. Voilà, Buzz, c'est une nouvelle poupée astronaute, il se prend pour un vrai cosmonaute.
Mais ce personnage, il est génial, il est génial. Enfin, l'arrivée dedans, elle chamboule tout. Voilà. Il arrive avec un bouleur énorme.
Et c'est un jouet de haute technologie, entre guillemets, par rapport aux autres.
Mais il ne sait pas que c'est un jouet, surtout.
Ouais, c'est, oui, lui, il ne se considère pas comme un jouet.
Voilà. Il est complètement dans un autre monde.
Ouais, ouais.
C'est ça. Il est persuadé d'arriver d'une autre planète, avec son scaphandre.
C'est le super-héros.
Ouais, c'est vraiment le super-héros. Et puis, il va rebattre les cartes, hein, finalement, au sein de ce groupe de jouets. Donc, il va prendre la place de Woody, qui était plutôt leader dans ce groupe. Comme jouet préféré, voilà, une bagarre va s'ensuivre entre les deux. Buzz va tomber accidentellement, par la fenêtre. Les autres vont l'accuser de l'avoir tué. ils vont sortir de la maison, enfin voilà, ça...
Beaucoup de péripéties après,
Beaucoup de péripéties, voilà.
Tu t'ennuies pas.
Dans le passage dans le jardin de Sid.
Dans le jardin de Sid.
Alors Sid, un enfant qui refabrique des jouets à partir de membres de...
Ouais, exactement.
Il torture des jouets. Il torture pas des jouets, voilà. Après, parce que tous les enfants ont fait ça, ça va.
On a tous fait ça.
On le prend pour un monstre dans le film, mais en vrai, il fait rien de mal.
Pas du tout. Moi, je prenais soin de mes jouets. Enfin, je veux dire, ils étaient impeccables.
Pauvre Sid.
C'est complètement faux. Voilà, donc moi, ce qui me plaît, c'est voilà, ces différents thèmes, c'est la jalousie, l'inimitié là, qui se passe entre les deux personnages. Puis après, ils deviennent solidaires. Après, ils arrivent à s'entraider parce que ils sont dans la difficulté. Donc et puis la fin du fin, c'est qu'ils deviennent vraiment très potes et complémentaires. Donc voilà.
Ouais, on est sur du buddy movie. C'est-à-dire, tu vois, t'avais l'arme fatale ou 50 minutes pour vivre, où t'as des duos incompatibles de base, et puis au final qui arrivent à s'entendre pour réussir, entre guillemets, leur
pour
mission,
une cause commune.
Ouais,
pour
voilà, c'est ça, commune, c'est ça.
C'est beau.
Et les buddy movies, ouais.
Ouais, puis c'est le premier film aussi totalement produit par Pixar, un long métrage et surtout en image de synthèse.
Exactement, c'est le premier. C'est le premier où tout a été fait en synthèse. Il n'y a pas de dessin, c'est que de la synthèse. Et c'est
puis il reste encore beau maintenant à l'heure actuelle.
Ça va, ouais.
Je le regarde sans
il
problème.
Date de 95, ouais. Effectivement.
Ouais, très beau. Moi, je me suis pas embêté en le revoyant.
Puis il y a des suites qui sont cool, pas toutes, mais...
Non, le quatrième, moi, j'aime beaucoup.
Ouais, le 4, il est cool.
Mais non, après, t'as Lester, enfin, Lasseter, le réalisateur, qui a pris un Oscar d'honneur pour l'avancement qu'il a fait au final au cinéma, par la réalisation d'un animé totalement en image de synthèse, quoi.
Parce qu'il y avait pas... Il y a pas de concurrence à l'époque, donc c'est limite une nouvelle catégorie.
C'est vrai qu'on aurait pu le faire, nous aussi, hein.
Ouais. En 95, ouais. Bah, bon. Sûr quand même.
On était un peu jeunes.
Ouais, ouais.
Les moyens techniques, on les avait peut-être pas.
On était plus en train de découper des jouets, quoi. Tu vois,
ouais, encore, ouais, non, je pense que non, même pas.
Il y a une musique culte aussi dans le film qu'on entend.
Ouais.
Moi, c'est le thème qui reste dans la tête 20 ans, 30 ans même après, bientôt.
C'est vrai, ouais, ça reste. Ça reste. Voilà, l'humour, il est omniprésent. Il y a souvent un sens caché du second degré, ce qui permet aussi aux plus grands à un moment donné de profiter aussi du film. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des citations qui restent, voilà.
J'allais te demander, est-ce que tu as une ou deux citations pour nous, quand même ?
Classique. Bah, vous êtes encore à l'ordinaire ou vous avez découvert la cristofusion ? Vers l'infini et au-delà, je peux voler.
Mais j'adore, pas moi, voler. C'est quand il appuie sur son bouton où ça doit faire des trucs. Ça fait rien.
Je peux voler.
Je n'appelle pas ça voler. En revanche, j'appelle ça tomber avec panache. Ouais.
Le film Buzz l'éclair, j'ai vraiment pas aimé.
Ah, c'est vrai.
Ouais,
j'appelle
ouais.
ça oui. tomber avec panache. Ouais, ouais. Ah, le dernier là. Ouais, non, ouais. Dégueulasse,
ouais.
dégueulasse.
Ouais,
dégueulasse.
C'est dommage hein, parce que tu sens qu'il y a du budget et tout. Mais ouais.
Non, ils ont même perdu le personnage.
Ouais. Ouais, il y a ça, deux, trois trucs sympas, mais ça suffit pas à sauver un film.
Ouais, ouais, ouais.
Ce qui m'a plu, moi aussi, c'est le doublage. Sur les voix françaises, on retrouve la voix de Woody, c'est le doublage de Tom Hanks. C'est la voix de Tom Hanks en français. Il y a Richard Darbois qui est sur Darbois qui est sur Buzz, qui prête sa voix aussi au génie d'Aladin ou encore à Harrison Ford dans l'ensemble de ses films. Enfin, voilà, j'ai une préférence pour Henri Guibé, pour la voix du T-Rex. Alors c'est Henri Guibé, c'est celui qui joue Salomon dans Rabbi Jacob avec Louis de Funès.
Oh la vache, c'est pointu là quand même.
Ouais,
ça a été recherché loin. Ça.
Ouais, ouais.
Je suis allé un peu.
Ça, c'est de l'info, j'ai été creusé, hein, bonhomme.
Alors là, ça bosse.
Ça... Bah, en tout cas, ça, sur ma génération, voilà, ça me parle moi un peu plus. Bon, voilà, vous l'aurez compris, c'est un film qui me rappelle beaucoup de moments de ma jeunesse, moi, qui me fait référence à des contenus que j'apprécie et ça me fait du bien, comme une bonne bière avec des copains.
Et du coup, tu veux, enfin, je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter, sinon on peut passer à la musique que tu as choisie.
La musique que j'ai choisie.
Je crois que c'est Je suis ton ami.
Je suis ton ami.
De Randy Newman.
Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait, oui, je suis ton ami. Oui, je suis ton ami. Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Si t'as des soucis, j'ai les mêmes aussi, mais je ferai n'importe quoi pour toi. Tous les deux confondus comme les veines dans le bois, parce que je suis ton ami, c'est en moi, je suis ton ami. Y'a peut-être plus malin que moi ailleurs, plus fort, plus puissant aussi. Mais je suis sûr que personne t'aimera comme je le fais, toi et moi. Et plus les années passent, plus on est solidaires. C'est peut-être ça notre destinée. Crois-moi, je suis toujours là, car je suis ton ami.
Et du coup, c'était Je suis ton ami de Toy Story, film présenté par Grand Bobo. Merci Grand Bobo.
Musique de Randy Newman.
Avec plaisir.
Ok, on passe au troisième film. Petit Bobo ?
Le voyage de Chihiro, bonsoir, bonsoir, le petit Bobo, oui, c'est vrai, effectivement, je suis petit ce soir. Sorti, effectivement, le voyage de Chihiro en 2002 par Hayao Miyazaki. Si vous ne le connaissez pas, vous avez raté votre vie, j'ai envie de vous dire. S'il y a un japonais avec Akira Toriyama qu'il faut connaître, c'est lui, qui a réalisé Dragon Ball Z quand même. Hein. Bon, bref. Le synopsis, Chihiro, une jeune fillette de 10 ans, est en route vers une nouvelle demeure en compagnie de ses parents au cours du voyage. La famille fait une halte dans un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la visite, les parents s'arrêtent dans un bâtiment pour déguster quelques mets très appétissants apparus comme par enchantement. Et là, cette nourriture les transforme en porcs. D'ailleurs, qui peut choquer peut-être les enfants en très bas âge.
Ouais, c'est vrai que ça peut, c'est voilà. Une scène qui peut... Voilà,
on en reparlera tout à l'heure.
Oui, oui, prise de panique, Chihiro s'enfuit et se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique. Elle rencontre alors l'énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve. Moi, personnellement, je le trouve magnifique. Il est beau, il est poétique, il est fou. Et il casse tous les codes.
Il est codes occidentaux, on va dire.
Exactement. Nous, en tant qu'occidentaux, on a vu des films. Voilà, tout de suite au début du film, tu sais qui est le gentil, qui est le méchant, tu sais comment ça va finir. Et là, en fait, t'as pas véritablement de gentil.
Jusqu'à la fin.
T'as pas de méchant. C'est juste un voyage.
Oui, voilà.
C'est juste un voyage.
Il faut avoir les références à la culture japonaise qu'on n'a pas aussi, parce que c'est beaucoup de dieux. Alors je sais plus comment ils les appellent, mais bon, c'est. Ouais, voilà, donc nous on le voit de.
Même sans les avoir, sincèrement, sans les avoir. Oui. Toi, avec ta culture polythéiste chez les Grecs à l'Antiquité, c'est pareil quoi.
Tu sais pas trop où tu vas en fait dans ce film. Mmh.
Et c'est ça qui est génial. Ouais, tu te laisses embarquer.
Alors qu'elle est assez craintive, qu'elle veut. Elle part totalement à contre-courant de sa personnalité quand elle est arrivée. Oui. Très proche de ses parents, non, je veux pas y aller, revenez.
Et puis d'un coup, elle se met à travailler, travailler dur. Donc,
Puis c'est du Miyazaki, quoi. C'est un peu le combat de l'innocence contre la cupidité.
Après, sur Miyazaki, là, c'est son chef-d'œuvre. Parce que t'as effectivement Princesse Mononoke qui arrive plus tôt.
Château en pas aussi. J'ai pas vraiment Princesse Mononoke, mais.
Franchement, Miyazaki, tu peux tout regarder. C'est un régal.
Oui, voilà. Des studios Ghibli en général.
Là, le voyage de Chihiro, déjà, il le considérait comme son dernier film. Après, il pensait arrêter.
Loupé.
Bluff Martoni, hein, parce que.
tu bluffes Martoni.
oui, complètement. Parce qu'il en a refait 2 ou 3, voire 3-4. Voilà, dont le dernier, je crois, c'est L'Enfant et le Héron. Oui. Enfin, voilà. Mais ce film, il a eu un record au box-office en 2001. Un succès phénoménal qui dépasse Titanic sur les premiers temps avec 17 millions de spectateurs en 2001, quoi.
Ok.
Voilà, c'est un massacre qu'il a fait ce film. Il est devenu aussi le premier long métrage non américain à dépasser les 2 millions de dollars de recettes.
200.
Oui, 200 millions de dollars de recettes. Et après, c'est aussi sa 6e collaboration avec Joe Hisaishi, le compositeur, qui sont tous les deux des amis de Takeshi Kitano, qui joue le prof dans Battle Royale. Ouais, je sais pas si
Battle Royale. Oh, putain, voilà. J'espère qu'on le connaîtra un jour. Parce que ça, c'est...
Et ben, le prof, ça, c'est quand génial. Voit ses élèves sur l'île là, s'entretuer, c'est lui.
Ok,
c'est
ça.
Voilà, ouais, donc petite anecdote sympa. Miyazaki a fait aussi Le Château dans le Ciel, Mon Voisin Totoro, qui est extraordinaire, Mon Voisin Totoro. Porco Rosso, Princesse Mononoke, etc. Ouais.
Voilà. Que, après, des
que des chefs-d'œuvre au final. Après, ça reste un réalisateur qui fait tout à la main. Les dessins sont faits à la main, ensuite scannés et repris numériquement. Et voilà, c'est un dessinateur.
Et avec un gros sens du détail, parce qu'il y a des détails dans quasiment tous les plans, t'as des trucs importants que tu vois pas forcément au premier visionnage.
Non, oui.
Ça, j'aime bien.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs lectures sur ce film. Ouais. Je l'ai vu 3-4 fois, je pense. Je l'ai revu. Ça fait plus de 10 ans que je l'avais vu, je pense. Et j'ai l'impression pas de le redécouvrir, mais de le voir différemment en ayant vieilli.
C'est, c'est ça, t'as pas la même lecture en étant gamin.
Mais je trouve que le rythme est bien. Après, peut-être pour les jeunes enfants, c'est peut-être un peu dur, parce qu'il y a des passages qui sont un peu space.
C'est le bémol que je voudrais mettre, moi.
Ouais,
c'est...
mais après, c'est japonais.
Et ils sont dès le début.
C'est du film d'animation qui n'est pas destiné à une jeune, à un public jeune. Ça, c'est parce que tu n'as pas les références, tu n'as pas le recul, et ce n'est pas un film qui est destiné à la jeunesse.
Si, à partir de 9-10 ans, c'est
voilà. Ouais, je pense que ça va. Quand même.
Mais contrairement à Toy Story, où tu t'adresses à un public 4 ans, je pense que à partir du moins 6 ans. Ou,
Toy Story, tu peux le mettre à n'importe quel âge. Mais effectivement, Chihiro.
Mais par rapport à d'autres films qu'on va présenter plus tard, ça s'adresse un peu à un public jeune. Ouais. Quoi, parce que les autres, là,
On monte en pression. Mais Voyage de Chihiro, très gentil par rapport à ce qui va venir après. Très gentil. Après, ce qui est intéressant dans le Voyage de Chihiro, c'est qu'il s'est, il s'est inspiré du fonctionnement des studios Ghibli, notamment par l'intensité qu'il y a dans les. dans les bains. Ça évoque l'intensité qu'il y a dans les studios.
Ah bah,
le personnage de Yayu, Yubaba, pardon. Le personnage de Yubaba qui régit l'établissement correspond au producteur Toshio Suzuki. Donc voilà, avec une main de fer, etc. Alors que le débordé Kamaji avec ses multiples poras serait l'image de
Miyazaki.
Ouais, le réalisateur lui-même.
Et bien sûr.
Alors que Shiro, elle, doit travailler dur si elle veut disparaître, être envoyée dans le monde réel avec ses parents. Voilà, il y a ce truc japonais où il faut travailler. En fait, si tu travailles, tu seras récompensé.
C'est aussi un parallèle qu'on peut faire plus ou moins avec l'histoire sans fin, le fait de l'oubli en fait. Si on oublie, elle reste dans le monde, l'histoire sans fin, si tu oublies, le monde disparaît. Et c'est,
comme dans Coco aussi.
Comme dans Coco, oui, effectivement.
Voilà, c'est exactement la même chose. Mais voilà, il y a ce truc japonais où tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler dur, sinon tu n'existes pas.
C'est le travail qui récompense.
Ah bah c'est...
Travailler, les amis, travailler.
Ouais, les Japonais.
Mais pas trop quand même.
Non, travailler quand vous voulez. Ou tu fais pas la tâche non plus.
Non, parce qu'on rappelle quand même que le Japon
on est pas
le
des
pays
bêtes.
Dans lequel.
On n'est pas des bêtes.
Le Japon est le pays dans lequel il y a le plus de suicides, hein, tout de même. Hein.
Ouais.
De par la pression du travail, justement.
Tu vois ce que ça fait de travailler ?
Ben oui ! Donc, hein, travailler, mais pas trop.
Tu vois ce que c'est que le boulot ?
Mettez-vous à 50% comme nous et faites de la radio.
Faites du bénévolat, la radio, c'est beaucoup mieux, franchement.
Et je te propose, Bobo, qu'on passe à la musique, ça part, c'est quelque chose à rajouter ?
Pas du tout. La musique, je l'ai déjà dit, Joe Hisaishi, qui a fait la plupart des bandes-sons des films de Miyazaki, avec le titre « The Dragon Boy ».
Et on se retrouve dans Ciné Primitif. On vient de s'écouter, Bobo, tu peux nous dire ?
Joe Hisaishi, The Dragon Boy.
Du voyage de Chihiro. On passe au film suivant.
Ouais. Qui est Akira. Un grand classique japonais réalisé par Katsuhiro Otomo en 1988. Ça a pour thème principalement... c'est un style cyberpunk, on va dire que c'était un des précurseurs dans le mouvement cyberpunk avant les années 90. Le film a coûté 9 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme, mais a rapporté je ne sais plus combien, 80, 90, un truc du genre, donc plutôt rentable. Donc le synopsis du film, dans un futur dystopique, Neo Tokyo renaît après une explosion ayant détruit Tokyo en cendres en 1988. Kaneda, leader d'un gang de motards, découvre que son ami Tetsuo a acquis des pouvoirs télékinétiques après un accident mystérieux. Ses pouvoirs déchaînent le chaos et destruction, tandis que Kaneda enquête sur un projet militaire et sur une légendaire entité Akira à l'origine de la catastrophe initiale. Donc, ce film est assez barré. À l'origine, c'est...
Non, complètement barré.
Complètement barré.
Après,
tu sais pas où t'es, tu sais pas où tu vas.
Exactement.
Et tu sais pas où tu finis.
Exactement, parce que ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est qu'il est sorti en 88 et qu'il n'avait pas fini ses mangas. Il a fini 2 ans plus tard, en 90. Donc, la fin, c'est pour ça qu'il y a une impression de bâclée. Et Akira, qui est un des principaux protagonistes dans le manga qu'on a dans deux tomes, on le voit à peine 10 minutes dans le film, un truc du genre. Tetsuo devient le personnage principal du film.
Ouais, avec Kaneda.
Ouais.
Donc la fin dans les mangas, c'est pas la même.
Elle est plus ou moins pareil, mais elle est amenée moins brutalement, en fait.
Okay.
Du coup, t'as pas la même ressenti sur... Du moins, t'as pas la même interprétation.
Ok, ok.
Dans ce film, on retrouve les principaux modules à mon, hein, bombe nucléaire, sec, militarisation, technologie...
Religion,
bien sûr. Bah, religion, plus ou moins par rapport aux sectes, et c'est pareil, dans le film, ça a été assez coupé, parce que t'as une grande part des sectes qu'on voit dans le manga qui n'est pas là. Mais ce film d'animation est quand même impressionnant, parce que je crois qu'il y a 160 000 dessins, je crois qu'ils ont fait pour le film, donc c'est un des records à l'époque.
Et moi, si je peux me permettre, ouais. Tu as les personnages, ils sont pas fous.
Ouais.
Par contre, le décor derrière... Il est extraordinaire.
Ouais. Alors c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est vraiment tout ce qui est décor, la ville et tout.
Et
c'est...
beaucoup de nuit en plus avec les jeux de lumière. Hein,
ouais, il y a vraiment un gros travail sur tout ce qui est décor en arrière-plan. Mmh.
Puis le détail, enfin, te fait un détail de la ville, des trucs, c'est magique.
Ouais.
Alors que je te dis, les personnages sont pas fous.
Non, les personnages sont pas fous, après ils sont attachants, tu vois, genre Kaneda ou les rebelles avec, comment elle s'appelle, Kay. Qui sont quand même des protagonistes qui n'ont pas de pouvoir, qui se mesurent à plus gros, à l'armée, à Akira, à Tetsuo, qui est un dieu vivant. En fait, là, on est carrément dans une représentation de... un dieu, le mec s'élève dans le ciel pour aller péter un laser orbital.
Ouais, ouais, bien sûr.
Parce qu'il lui a coupé un bras, il le pète, et après, retombe sur Terre, style de rien.
Ouais. Il se refait un bras avec des fils.
C'est ça, en étant posé sur son trône avec son cap, avec sa cape, etc.
Mais tu sais, en fait, mais tu sais pas où ça va, tu sais pas ce que c'est véritablement Akira.
Non, parce que Akira, en fait, ce qu'ils expliquent au début du film, c'est qu'Akira est dans chaque cardo, tu vois. Et en gros, c'est le parallèle que tu fais avec une religion aussi, c'est que, par exemple, on va dire Dieu est dans chacun de soi. Akira, elle est une entité mystique, mais qui est bien existante, en fait.
D'accord, parce que moi j'ai vraiment, je l'ai regardé en entier, c'est la première fois que je le voyais et j'ai pas tout compris. Hein.
Je peux comprendre, moi je l'avais lu avant de le voir, après là ça m'a fait plaisir de le revoir, j'avais été le revoir au cinéma, t'es ressorti en remasterisé il y a 4 ans je crois à l'Opéra. Et là le refait de l'avoir vu en Blu-ray, t'as quand même un gros cachet sur l'image quoi.
Ah mais franchement, les paysages, le détail de la ville, etc. Oh, c'est magnifique.
Ouais.
Puis c'est super fluide, ouais, comme tu disais, enfin, c'est impressionnant parce que c'est du. J'ai regardé, c'est 24 images par seconde.
Ouais, ouais, bah,
du dessin quoi.
Ouais,
c'est pas de l'animation comme on a maintenant numérique.
Et puis je savais pas, mais t'es en 88 quoi.
Ouais, 88
c'est ça. Ouais, t'es assez vieux quand même.
Et tu te dis qu'en même temps il écrivait ses mangas. Donc après, il est tout seul crédité sur les mangas, bah, comme tous les mangas. Après, ils ont des stagiaires, ouais. qui dessinent gratuitement plus ou moins dans l'ombre.
T'es
en général,
train de tuer le mythe.
C'est pareil pour tous les mangas, Miyazaki, n'importe lequel.
Ouais, t'as un chef dessinateur.
Les autres ne sont pas nommés, c'est la hiérarchie, c'est comme
oui,
ça.
Ouais.
Et après, ils font leurs propres mangas en général, ils sont connus.
Tu travailles avec le chef et ensuite tu crées ton truc.
Ouais. Mais Akira, vraiment, à côté sombre et l'aspect cyberpunk, on ne l'avait pas en 88. Énormément de films, du moins Blade Runner, qui était sorti quelques années auparavant.
Il y a beaucoup de films qui sont inspirés, même après dans les found footage.
T'avais le clip de Kenny West, je ne sais même plus lequel, où il y a plein de séquences d'Akira dedans.
Dans le film de Spielberg.
Dans le film de Spielberg, t'as la moto d'Akira qui peut acheter Ready Player One, il peut acheter la moto de Kaneda.
Beaucoup de références à ce film.
À la pop culture,
Stranger Things.
Oui, aussi, oui. Non, c'était un des grands classiques, et il faut savoir aussi que le manga, quand il est arrivé en Occident, il n'était pas en lecture au sens manga habituel, en fait. Ils l'ont refait en sens lecture classique, et c'est un des seuls mangas que tu peux trouver actuellement qui est en sens lecture occidentale, en fait.
Ok, ouais, c'est vrai que j'ai tendance à les lire à l'envers, du coup je comprends rien. c'est pas facile.
Moi, j'encourage tout le monde à lire ce manga, au moins une fois, il n'y a que 6 tomes, ça suffit.
Alors j'ai pas compris l'endroit à l'envers, etc.
Mais un manga, tu commences par la droite, enfin par le.
Ouais, c'est le sens de lecture.
La page droite.
Ce qui pour nous est la fin. Tu démarres avec ta première de couverture. Ouais. Là, en l'ouvrant de droite à gauche, alors que sur le manga...
Tous les autres mangas, tu l'as à l'inverse. Voilà. Sauf Akira qui s'y commence.
Tu commences par la fin d'un livre normal.
Ouais.
Oui.
Et du coup, il a posé ses pierres à l'édifice, on va dire, actuel de l'animation japonaise. Et surtout, au monument cyberpunk qu'il a créé. Qu'on retrouvera dans plein d'autres films et plein d'anecdotes.
Et la musique, du coup ?
La musique est composée par Geno Yamashiro Gumi.
À tes souhaits.
De son petit nom.
Bonsoir Geno.
Et c'est le thème de Kaneda, un des principaux protagonistes du film.
Et de retour dans Ciné Primitif. Salut, ouais. On vient de s'écouter.
Gaino Yamashirigumi, le compositeur de la musique d'Akira, et c'était le thème de Kaneda.
Ouais, bien sympa ce film, un peu particulier.
C'est un film de niche.
C'est pas le plus évident à regarder, ouais, dans la sélection.
Ouais, faut avoir un peu de temps, faut aimer découvrir des choses, faut aimer l'esthétique.
Bah, je vous propose un film beaucoup plus abordable. Parce que là, on est sur quand même South Park, le film. Plus long, plus grand et pas coupé. J'adore South Park, faut le savoir. Voilà. Ce film est sorti en 1998. Réalisateur, c'est Trey Parker. Donc, il fait bien sûr la série South Park avec Matt Stone. Il a fait aussi Orgasmo, qui est génial. Cannibal, The Musical. Team America, Police du Monde, qui est très bien, avec des marionnettes.
J'ai hésité à le prendre pour cette émission.
Franchement, il est génial. Mais c'est... Ouais, de toute façon, ils sont irrévérencieux. C'est que de la critique, de la satire, de l'insulte. Pour beaucoup, c'est pipi caca. Il faut voir les choses derrière. Après, ils sont un peu réac. Je dois l'admettre, mais bon. En gros, le synopsis. Donc, c'est quatre enfants, donc les personnages principaux de South Park, donc Stan, Kenny, Cartman et Kyle, qui vont assister à la projection d'un film canadien de Terrence et Philippe, qui est interdit aux moins de 18 ans. C'est un film vulgaire et puéril. Ils vont alors s'empresser, après le visionnage, d'aller apprendre les insultes entendues à leurs camarades de classe, provoquant la colère des enseignants et des parents d'élèves. Les parents d'élèves vont réussir à faire emprisonner Terrence et Philippe, les tenant pour responsables du comportement des enfants. Donc forcément le Canada n'est pas content et condamne cette décision, et un conflit va donc éclater entre les États-Unis et le Canada. En parallèle, Satan, en couple avec Saddam Hussein, a pour projet de dominer le monde. Voilà, ça vous donne un peu le...
Ça ressemble un peu à ce qui se passe en ce moment, non?
C'est plutôt d'actualité.
On ne sait pas si Satan et Saddam Hussein veulent dominer le monde, non, mais en gros, ça parle de censure à leur manière. Donc, ouais, si on s'arrête pas au pipi caca, aux insultes, etc., il y a quand même des choses que ce Spark arrive à dénoncer. Et Trey Parker et Matt Stone, je les admire là-dessus.
Oui, ils sont sans pitié. Hein.
Oui, ils sont sans pitié avec tout le monde, avec les stars, avec le système hollywoodien, avec ceux qui ont du pouvoir. Et voilà, des fois, bon, un peu réac, j'avoue que...
Non mais au départ ils ont créé un truc qui a galvanisé les gens, et après là ils ont introduit tout ce qu'ils voulaient introduire, ouais, dans South Park. Oh, la première saison, tu regardes, c'est pas mal, mais ça dénonce pas tant
non.
que ça.
Maintenant ça dénonce à fond.
Par contre là maintenant ils sont en roue libre, les gars.
Ils se lâchent.
Ah ouais, ils sont en roue libre. Mais au départ, voilà, ils ont introduit un truc, ça a fonctionné, ça a plu aux gens, et après ils ont fait ce qu'ils voulaient.
Et ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils s'en prennent à tout le monde. Même ou plus puissant, et même la Scientologie, 26, par exemple.
26 saisons que ça dure.
26 saisons que ça dure, et ils sont toujours fait. Derrière le scénario. Enfin, en tout cas, ils ont toujours, c'est toujours eux qui font les voix.
Ouais, les doublages aussi.
Les doublages, ouais. Ils font les doublages, et non, ils participent toujours au scénario et tout. C'est vraiment leur bébé. Et c'est pas comme les Simpsons où il y a 18 000 scénaristes. Eux, ils entourent quand même. Bon, je pense pas que c'est eux qui.
Après, ils en font 10, 8 ou 10 par an, c'est pas.
Oui, c'est pas énorme, mais bon, voilà, c'est
leur
délire.
Du coup, ils ont le temps de peaufiner leur.
C'est vrai. C'est leur pensée, en tout cas. Et en vrai, c'est. Bah, South Park, le film, bizarrement, c'est une comédie musicale, on peut dire. Okay, parce qu'il y a énormément de musique. Ouais. Parce que Trey Parker est un artiste.
D'ailleurs,
aussi à
relou.
Ce
relou quand même.
Pourquoi relou?
Ouais,
non, mais bah, attends, relou. Mais attends, ils ont quand même été aux Oscars grâce à ça, hein, face à Phil Collins. Pour le film Tarzan. Non, mais c'est quand même fort.
Ouais, c'est
et
fort.
Les mecs, tu sais comment ils sont arrivés aux Oscars? En robe, ils étaient déguisés en J-Lo, donc Jennifer Lopez, et en Gwyneth Paltrow. Et ils avaient pris une petite substance qui est pas très recommandée.
C'était du
LSD, je crois. Et ils étaient défoncés, et à chaque fois que les journalistes les interrogeaient en disant poser une question de merde, ils disaient « Oh, c'est une soirée fantastique, c'est génial ». Et ils répondaient que ça. Et ils ont passé leur soirée à faire ça. Donc en fait, c'était les deux... intrus un peu de la soirée, donc ils ont perdu forcément aux Oscars pour leur musique.
Face à Phil Collins, du coup.
Face à Phil Collins, ouais.
Qui donc, a eu l'Oscar pour...
Ouais, du coup, ils ont refait un épisode sur Phil Collins, en disant « Nya, 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 je suis pas content, sous Spark, ils sont face à moi aux Oscars ». Enfin, tu vois, les mecs, ils en remettent toujours une couche. Ils en remettent toujours une couche. Ils en ont rien à foutre, ils s'en prennent à tout le monde. Et vu qu'ils ont pas grand-chose à se reprocher, par exemple, je sais que quand ils ont fait un épisode sur la Scientologie, ils ont eu des problèmes parce que les scientologues...
Ils ont perdu chef quand même dans ce sens.
Ouais, chef qui était scientologue a décidé de quitter sous Spark. Enfin bref. bref, j'en reviens au film parce que
il y a des trucs tellement drôles. L'opération ouais. Planque-toi derrière les bronzés.
Oui.
Alors c'est ça, on mais accroche au char aux avions.
C'est ça, ça dénonce aussi. Bah, mais derrière, ça dénonce aussi le racisme.
Mais c'est pas facile à regarder, tu vois.
Pourquoi ?
Là, tu vois, après 20 piges, 20-25 piges. C'est dur.
Mais il est sorti en 98 aussi, pourquoi, donc pourquoi après il y a eu beaucoup de films de...
Bah, parce que moi j'ai ce regard de South Park sur les premières saisons, etc. Et c'est vrai que c'est toujours
moi
un peu...
j'ai jamais lâché l'affaire, du coup, peut-être c'est pour ça que j'ai des facilités à voir ce film.
Moi mais... ouais, je trouve que c'est bon, voilà, c'est un peu redondant et c'est des choses que t'as déjà vues. Mais...
Ah, faut le contextualiser par rapport déjà aux moyens de réalisation qu'ils avaient. Hein. C'est sûr. Vraiment carton et ouais, papier par rapport sûr. Aux nouvelles saisons animées.
Puis surtout que là, ça a été beaucoup copié, donc tu dis c'est des choses qu'on a déjà vues, mais là c'est en 98 qu'il est sorti le film par exemple. Mm. Donc après, il y a eu American Dad, les choses comme ça, les Griffins, machin. Mais un truc génial quand même, ils sont rentrés quand même dans le Guinness. Comme quoi ils en ont rien à foutre. C'est rentré dans le livre Guinness des records en 2000 comme film d'animation contenant le plus de vulgarité, avec 399 jurons, dont 146 d'utilisation du mot fuck.
Joe Pesci a qu'à bien se tenir.
Ouais. Exactement, dans les affranchis, monsieur, les affranchis.
Il a battu Joe Pesci.
Si vous n'avez pas écouté l'émission d'avant, écoutez les affranchis dans l'émission précédente sur ma fille.
128 gestes obscènes et 221 actes de violence. Alors. Acte de violence, je sais pas, parce qu'il dénonce.
Qu'est-ce qu'on met derrière un acte de violence ?
Voilà, parce que une des principales critiques de South Park dans ce qu'ils font, c'est aussi justement dire que les Américains sont plus choqués par la vulgarité, le sexe, que par la violence.
Mais
après sur ce film, il y a aussi beaucoup de références à d'autres films, parce que c'est un peu des geeks aussi, les créateurs de South Park. Donc Apocalypse Now, forcément, Star Wars, Orange Mécanique, qui est la musique de notre jingle, Dragon Ball Z, enfin voilà, il y a plein de trucs. En vrai, c'est pas juste un film stupide, il est stupide, je dois reconnaître, mais il y a quand même quelque chose derrière, et dans ce Spark en général.
Si ta première lecture, elle est classique, effectivement, t'as l'impression que c'est un film stupide, mais non.
Quand tu regardes, comme si tu regardais Terrence et Philippe,
oui.
Voilà, le film qui critique.
Ah bah voilà,
oui.
Voilà, mais oui. Derrière, en fait, ils critiquent une critique par leur film pourri, quoi. Enfin, pourri, vulgaire, etc.
Faut aller chercher le sens un peu caché, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière.
Non mais voilà, c'est plus subtil que ça n'y paraît, ce Spark.
Alors j'aimerais bien faire une petite
parenthèse.
À l'époque,
quand c'est sorti, ça paraissait quand même, du moins le regard des critiques françaises, c'était quand même un film débile, quoi.
Ouais.
Parce que les gens n'étaient pas habitués à ce genre de choses. Moi, je connaissais déjà South Park, donc c'est déjà...
Parce que tu t'arrêtes,
tu sais déjà à quoi t'attendre.
Toute la vulgarité qu'il y a...
En France, on est habitué au Disney, au Disney.
Exactement. Et donc, on s'arrête à cette première, ce premier pan de vulgarité. Mais il faut aller au-delà de ce côté vulgaire, et il faut aller chercher
c'est ça.
Sens
c'est
ça. Et ce qu'il y a derrière.
Et c'est ce qu'ils auront fait toute leur carrière. Hein.
Ouais.
Peu importe les films.
Et qui continuent à faire de toute façon.
Tout le monde en prend pour son âge.
C'est ça.
Après, ce qui est bon chez eux, c'est qu'ils n'ont pas de règles. Et ils n'ont pas de limites.
Mais ils sont
quand ils ont envie d'attaquer quelqu'un, ils l'attaquent.
Ah, mais ils savent en plus que ça va aller en justice, mais que la plupart du temps, ils vont gagner. Parce qu'en fait, ils font une caricature.
Artistes.
Ils ont le droit
c'est
de caricaturer.
Artistes,
ils ont le droit de faire ça. Et la musique que je vous propose de passer, elle va être très courte. Hein. C'est celle qui a failli gagner face à Phil Collins, on le rappelle, aux Oscars. Ça aurait été tellement
sur quel
génial.
Phil Collins
Phil Collins
Tarzan.
Sur Tarzan.
Ah, sur Tarzan.
Non, je vous propose qu'on passe Blame Canada.
Times have changed. Our kids are getting worse. They won't obey their parents. They just want to fight and curse. Should we blame the government or blame society?
Or should we blame the images on TV?
No, blame Canada!
Blame Canada!
With all their beady little eyes and clapping heads so full of lies.
Blame Canada! Blame Canada!
We need to form a full assault.
It's Canada's fault.
Don't blame me for my son Stan. He saw the darn cartoon and now he's off to join the clan. And my boy Eric once had my picture on his shelf. But now when I see him, he tells me to fuck myself.
Well, blame Canada!
Blame Canada!
It seems that everything's gone wrong since Canada came along.
Blame Canada! Blame Canada!
They're not even a real country anyway.
My son could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead, he burned up like a piggy on a barbecue.
Should we blame the matches?
Should we blame the fire?
Or the doctors who allowed it to expire?
Heck no! Blame Canada!
Blame Canada!
With all the hot
Alors, on vous passe pas des belles musiques sur Ciné Primitif ? Donc, on vient de s'écouter Blame Canada. De South Park, le film.
Oui, qui ont failli gagner face à Phil Collins lors des Oscars.
Monsieur. On passe au dernier film.
Ouais. Alors du coup, je vais vous parler de Mars Express, un film réalisé par Jérémy Perrin, scénarisé par lui-même et Laurent Sarfati. C'est un film de science-fiction, un anime en science-fiction. Il dure 1h30 environ, il sort en 2023 en France, il est mécéné par la région Grand Est. Jérémy Perrin, je crois qu'il est de la région lilloise, il a fait un clip qui avait vachement buzzé, Trucker's Delight, il y a une... quinzaine d'années, je dirais, à peu près. Il n'y avait pas encore trop de pixel art, tout ça, c'était pas encore trop la mode, et ce clip avait bien marché. Il a fait aussi l'anime, l'adaptation animée de La Semaine, de Bastien Vives.
La première saison, je crois.
Ah. Ouais.
Le deuxième, c'est pas lui ?
Je crois pas, ouais, non.
Ah, je sais pas, mais La Semaine, je suis un grand fan. Vraiment, grand fan. D'ailleurs, c'est Dahu qui, ici présent, me l'a fait découvrir. Et vraiment magique. A eu un animé, bon bref.
Ouais.
Génial.
Bon, on va en reparler après de tout ça. Donc, dans les voix principales, il y a Léa Deguer, Daniel Njolobé, Mathieu Amalric, Marie Bouvet, Sébastien Cassagne et Matty Keller. Donc, le synopsis, en 2200, Aline Rubin, détective privé, et son partenaire android Carlos Rivera enquêtent sur la disparition d'une étudiante en cybernétique, Jun Cho, dans la capitale martienne Noxtis. Leur quête les plonge dans les profondeurs d'une société futuriste où des humains et robots coexistent, révélant des secrets troublants sur la robotique et l'humanité. Le film est assez déjanté, il y a pas mal de petits clins d'œil fun, par exemple quand elle est sobre, elle est alcoolique elle.
Et elle se met tac, hop,
mais sinon ça bloque les frigos, l'accès au frigo, elle a pas le droit parce qu'elle est sobre. T'as plein de petits trucs assez sympas, l'android qui se désactive pour arrêter les gens. Parce que les androïdes, faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de frapper les humains.
Mmh. Oui, c'est ça, ils sont régis par les règles.
C'est ça,
à part s'ils se font pirater.
À part s'ils se font...
Enfin, pas pirater, mais...
Du coup, je sais plus le nom.
Émancipé...
Déboulonner ou un truc comme ça.
Oui, déboulonner. Et déboulonner, en fait, c'est l'émancipation des IA, des robots.
Je sais pas si c'est déboulonner.
Si, c'est déboulonner.
Du coup, ils vont se rendre compte qu'il y a de plus en plus de robots qui sont libres et que ces robots ont une idée en tête, c'est fabriquer un vaisseau spatial pour je ne sais quelle raison, et les humains ne savent pas pourquoi, alors que pour eux, s'ils ne sont plus asservis par les humains, du coup, ils sont inutiles et ils ont peur que les robots se rebellent, alors que les robots veulent juste se faire la chasse.
Exactement. j'adore ce film parce qu'il est d'actualité complètement avec la venue de l'IA depuis ces dernières années. Là.
Oui.
Et tu te rends compte qu'en fait, ils sont pas contre toi.
Ouais.
Ils sont pas contre toi, ils veulent juste s'en aller, quoi.
En fait, ou faire des trucs bizarres de robots.
Et après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que c'est... même si tu meurs, ton esprit peut-être est réintégré dans un an.
C'est ça.
Quel enfer.
Ouais.
Quoi ?
Regarde, il va revoir sa fille.
C'est d'actualité, en plus.
T'es déjà un robot, toi.
Du coup, je sais pas, vous en avez pensé quoi, vous, du film ?
J'ai bien aimé. Moi, je trouve qu'il est...
Moi, j'avais été le voir à l'Opéra, quand c'est sorti.
J'ai bien aimé, parce qu'il prend le temps aussi, enfin, c'est un film... Ouais. Avoir posé, je trouve.
Ah bah, ouais, c'est tout aussi.
C'est de la science-fiction, mais ça va pas dans tous les sens. Enfin,
non, ça va, ça va.
C'est un rythme.
C'est assez court, donc le rythme se tient. Et puis, quand t'as vu La Semaine, c'est vraiment les mêmes touches graphiques aussi.
Moi, je l'ai trouvé exceptionnel, parce que j'ai adoré La Semaine, et j'ai vu Mars Express après avoir vu La Semaine.
Ouais, pareil.
Et en plus, je te dis, le thème, la finalité. C'est
plein de petits détails en plus qu'il faut.
C'est une belle construction, c'est bien fini, c'est bien terminé.
C'est surtout, ça montre aussi la fin des robots qui risquent de se faire remplacer par de l'organique.
Voilà.
Ils
veulent pas détruire l'humanité. Non.
D'ailleurs, il y a très peu d'actes de robots qui tuent d'humains.
Il y en a aucun. Si tu regardes, il y en a aucun.
Donc c'est un film pour les amoureux des robots.
Moi je pense que c'est un film à voir, c'est pas forcément pour les enfants, ça passe bien. Je pense qu'ils s'ennuieraient peut-être un peu, c'est pas très violent, mais...
C'est un film à voir à notre âge, je pense, pour une génération, limite.
Non, je pense que ça m'aurait pas plu enfant, moi je l'ai vu en sortant du boulot à l'Opéra.
En tout cas, c'est assez linéaire.
Ouais, c'est assez linéaire.
Y a pas de...
Mais t'as quand même un fond, à chaque fois, tu vois, chaque truc est justifié, du moins chaque séquence est justifiée. On s'éparpille pas sur 20 000 personnages, et du coup t'as de l'affection pour Carlos, qui est un mec qui s'est fait tuer dans une bataille de gang. et il suit le personnage principal, alors que ça doit être une personne vraiment détestable normalement, mais là...
Oui, et puis surtout quand il était humain, il frappait sa femme.
Ouais, voilà. C'était un connard. Mais ouais, d'ailleurs, qui a peur connard. De sa femme.
Il
a peur
qu'il robot.
Sa femme qui a peur de le revoir d'ailleurs. Con, même après.
Et donc, c'est sûr, ça te fait réfléchir.
Bon, bah voilà, mais après, je vous conseille ce film. En plus, ça fait de la pub pour le Grand-Dumas, c'est de la région.
Tout à fait, c'est dans quoi,
c'est cool, c'est chez nous. Français, régional, en plus, franchement.
Et du moins récent, pour la plupart des films que je prends, qui datent d'avant 90, pour une fois. Le compositeur, c'est Fred Avril et Philippe Moutaillet. Le nom du morceau, je ne le connais plus, mais c'est la musique quand ils arrivent en boîte de nuit vers le milieu du film.
Et donc, avant de se quitter, on va annoncer le prochain thème de l'émission. Donc, pas besoin de roulette cette fois, puisque c'est...
Ça sera espace, puisque c'est le dernier thème qui reste cette année, messieurs, avant de se retrouver pour l'année prochaine.
Donc, comme vous l'avez compris, le prochain thème sera espace. Et avant de nous quitter, nous allons écouter la musique du film Mars Express, composée par Fred Avril et Philippe Montaillet. Je n'ai plus le nom du morceau, mais c'est la séquence où ils arrivent en boîte de nuit.
Bon, ça sera sur notre page. Hein.
On se retrouve le mois prochain pour la dernière de l'année.
Et ouais, on se fait des bisous.
Bisous,
ciao.